Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle nature voulons-nous ? Demande l'anthropologue Philippe Descola lorsqu'il présente le colloque « Les natures en question ». Quelle leçon peut-on tirer d'un collectif de l'Amazonie équatorienne qui revendique à la COP21 la préservation non d'un espace naturel, mais celle de la relation matérielle et spirituelle qu'il a tissée avec les autres êtres qui habitent la forêt ? Dès lors, comment penser à nouveau frais, demande encore Philippe Descola, l'action politique et le vivre ensemble dans un monde où nature et société ne sont plus irrémédiablement dissociées ? De son côté, le philosophe-anthropologue Frédéric Keck s'interroge comment les relations entre humains et animaux se sont-elles transformées par l'anticipation des maladies infectieuses émergentes ? Quel est le rôle des animaux sentinelles dans nos sociétés qui craignent les pandémies ? La semaine passée, nous avons ouvert dans une perspective interdisciplinaire le questionnement de la place de la nature dans nos sociétés, de sa définition, alors que les frontières se brouillent entre humanité et nature, avec la diffusion du colloque du Collège de France donné en 2017 sous le titre « Les natures en question ». Après avoir replacé dans la longue durée l'émergence de la notion singulière de nature, le rôle qu'elle a joué dans la formation de la conscience européenne, dans le développement des sciences, dans la mise en place d'une ontologie sociale et d'une théorie de la nature humaine, longtemps exceptionnelle au regard du reste de l'humanité, il s'agit de s'interroger encore ce matin sur les recompositions anthropologiques. Comment certaines discontinuités fondamentales entre humains et non-humains persistent-elles ? Les actes du colloque « Les natures en question » viennent d'être publiés chez Odile Jacob. Dans son introduction, Philippe Descola, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Anthropologie de la nature, livre les enjeux de sa conférence et de celle que nous entendrons en deuxième partie avec Frédéric Keck, lui aussi philosophe de formation et anthropologue. Quelles sont les leçons à tirer, demande Philippe Descola, de ces recompositions et quelles sont les conséquences pour les sciences sociales, en particulier pour l'anthropologie, d'un découpage nouveau de leurs objets dans lequel humains et non-humains ne sont plus soumis à des régimes de description et d'explication séparés, mais sont vus comme réunis dans des collectifs à la composition très diverse, dont il convient de mettre en lumière les logiques d'association et les modalités de transformation. Frédéric Keck examinera pour sa part, en seconde partie, les techniques de veille sanitaire et de préparation aux pandémies infectieuses, dont il montre qu'elles mobilisent des compétences qui ont été développées par les chasseurs et les éleveurs pour gérer l'incertitude de leurs relations avec les non-humains. Mais gardons les sentinelles animales pour plus tard, nous gagnons tout de suite le Collège de France le 19 octobre 2017, pour la conférence de Philippe Descola, intitulée « De la nature universelle aux natures singulières, quelles leçons pour l'analyse des cultures ?»
Les sciences sociales ont conquis leur domaine d'exercice au XIXe siècle grâce à une sorte de yalta ontologique. Il était possible et nécessaire de rendre compte de la diversité des pratiques et des institutions humaines, donc de la contingence des usages du monde, puisque les lois décrivant le fonctionnement physique de ce même monde en garantissaient l'unicité. Complètement dissocié des conventions humaines, l'univers physique devenait l'arrière-plan sur le fond duquel pouvaient se détacher avec plus de netteté les particularismes des civilisations. Le relativisme culturel, ce principe de méthode qui veut que les valeurs d'une culture ne puisse servir de gabarit pour en étalonner une autre, devenait ainsi légitime et fécond, puisqu'il était entendu par ailleurs que si chaque culture jetait un regard qui lui était propre sur la nature, celle-ci, en revanche, était partout constituée des mêmes réalités, aux régularités rassurantes, connaissables par des méthodes éprouvées et réductibles à des lois immanentes. Chaque culture sauf la nôtre, évidemment, puisqu'elle avait inventé la science et sa condition de possibilité, à savoir l'universalisme naturel. Bien que beaucoup peinent encore à l'admettre, ce dispositif a fait long feu. Car l'on s'est peu à peu aperçu que le grand partage lui-même était relatif, que le découpage du monde qu'il opérait n'avait rien d'universel, ni même de proprement scientifique, puisqu'il aboutissait à ériger une cosmologie historiquement contingente, que j'ai appelée le naturalisme moderne, en modèle de tous les autres. On prenait ainsi pour acquise comme une donnée universelle de l'expérience, notre réalité à nous, nos façons d'établir des continuités, des discontinuités dans le monde et d'y déceler des rapports constants, nos manières de distribuer entités et phénomènes, processus et modes d'action dans des catégories qui auraient été prédéterminées par la texture et par la structure des choses. Certes, les sciences sociales n'appréhendaient pas les cultures non modernes du passé et du présent comme des analogues complets de la culture moderne. C'eût été bien peu vraisemblable. Elle les voyait, elle les voit encore dans une large mesure, à travers le prisme d'une partie seulement de notre propre cosmologie, comme autant d'expressions singulières de la culture, en tant qu'elle fait contraste avec une nature unique et universelle, des cultures très diverses donc, mais qui répondent toutes au canon de ce que nous entendons par cette double abstraction. Et parce qu'il est enraciné dans nos habitudes, cet ethnocentrisme est fort difficile à extirper, même pour des anthropologues. À leurs yeux, et jusqu'à récemment, comme l'anthropologue américain Roy Wagner l'a fort bien dit, les cultures périphériques de l'Occident moderne, je le cite, n'offraient pas des contrastes ou des contre-exemples à notre culture en tant que système total de conceptualisation, elles suggéraient plutôt des comparaisons quant à d'autres manières de traiter notre propre réalité. Car c'est évidemment en anthropologie que se font sentir au premier chef les conséquences dommageables d'employer une constitution dualiste pour décrire des mondes qui ne le sont pas. Dire des peuples d'Amazonie ou de Nouvelle-Guinée que leurs sociétés sont proches de la nature, comme on le lit encore trop souvent, n'a littéralement aucun sens, puisque la nature n'existe pas pour eux comme une réalité séparée et qu'ils ne conçoivent pas l'assemblage d'humains et de non-humains au sein duquel ils vivent comme une société dans l'acception que la philosophie politique européenne a peu à peu donnée à cette notion. C'est pour cela qu'il faut approfondir sans relâche le travail de critique et de relativisation des concepts en usage dans les sciences sociales. Des notions clés de ces disciplines comme culture, nature, société, histoire, économie, politique, religion, art, etc. Ces catégories, elles ont permis, sans aucun doute, d'éclairer notre propre condition collective d'Européens et de mettre des mots sur certaines des réalités qui étaient en train de prendre une autonomie perceptible entre le début du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, une période cruciale durant laquelle ont été forgés bien des concepts qui ont permis à l'Europe de se définir réflexivement en tant que collectif ancré dans un processus historique. Ces concepts sont donc tout sauf transhistoriques. Ils sont le produit d'une histoire sociale et culturelle tout à fait singulière, celle de cette péninsule à l'extrême ouest du continent asiatique que l'on appelle l'Occident. Intrinsèquement liés au destin sociopolitique de l'Europe moderne, ces outils réflexifs ont pourtant été réemployés par les sciences sociales pour décrire et expliquer des sociétés non européennes comme si leur validité descriptive était universelle, comme si nos sociétés pouvaient servir d'étalon pour qualifier toute forme d'association. Alors la coloration eurocentrique persistante de bien des concepts en usage dans les sciences sociales montre au fond bien que le principe du relativisme méthodologique qui avait été développé par l'ethnologie dès le début du XXe siècle n'a pas été mené à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la remise en cause du schème général au sein duquel nos propres valeurs et institutions avaient pris forme. Et ce cadre général, c'est l'ontologie qui nous est familière, que j'ai appelée le naturalisme, une ontologie où, contrairement à d'autres, il y a des sociétés, il y a de la nature, il y a une destinée historique, il y a des habitudes culturelles, il y a une séparation nette entre le social et l'économique, entre les choses et les personnes, ou entre la connaissance scientifique et la croyance religieuse. Faire le constat du caractère historiquement contingent de cette ontologie naturaliste ne revient pas à défendre un hyper-relativisme, ainsi qu'on l'entend parfois. C'est au contraire vouloir promouvoir la mise au point d'outils analytiques qui seraient le plus possible indemnes des particularismes historiques dont sont actuellement grevés les concepts des sciences sociales. Des termes comme gravitation ou photosynthèse ont une validité universelle. Ce n'est pas le cas de notions comme société, culture ou nature. Or, encore jusqu'à maintenant, la plupart des études anthropologiques portant sur l'organisation sociopolitique des peuples qui demeuraient ou qui demeurent toujours au seuil de la modernité continuent à traiter leurs institutions comme si elles étaient exclusivement chargées de régir les relations entre humains sur le modèle de la société civile occidentale. Et pourtant, la différence considérable entre les cosmopolitiques non modernes et les opérateurs politiques modernes tient au fait que les premières, les cosmopolitiques non modernes, sont en mesure d'intégrer les non-humains dans les collectifs ou de voir dans les non-humains des sujets politiques agissant dans leur propre collectif. Autrement dit, les genres d'êtres communs qui en résultent ne sont pas ceux auxquels nous sommes habitués. Ce sont des associations d'humains et de non-humains qui peuvent prendre des formes très diverses et qui, en ce sens, peuvent aussi nous offrir matière à réflexion sur la transformation de nos propres institutions politiques. Par exemple, si l'on examine quelles sont les composantes de ce que les ethnologues appellent un groupe de filiation, un clan, un lignage ou toute autre unité analogue, non pas telle que l'anthropologie le définit de façon usuelle, à savoir un ensemble d'humains issus d'un ancêtre commun, mais tel qu'un peuple ou de semblables unités existent, les conçoit effectivement, alors on s'aperçoit qu'elles contiennent bien plus que des humains. J'en évoquerai rapidement deux cas. Chez les Peuls Wodabé du Sahel, le terme « doudal » désigne ordinairement, sous la plume des ethnologues, une fraction de lignage, à savoir la plus grosse unité segmentaire fonctionnant comme une personne morale. Toutefois, et comme Angelo Bonfiglioli l'a bien montré, « doudal » désigne à la fois une lignée d'humains et une lignée de zébus, que les humains ont sélectionné au fil des générations, de sorte que, comme il l'écrit, le troupeau est un langage par lequel l'ordre social peut être exprimé et sacralisé. J'irai plus loin que lui. On voit bien dans la description que Bonfiglioli donne de la coexistence entre le doudal lignage et le doudal troupeau qu'un groupe d'humains, le doudal lignage, et un groupe d'animaux domestiques, le doudal troupeau, forment une totalité continue et imbriquée qu'un même terme désigne. Le cas de ce que, dans les Andes, on appelle un ayllu est encore plus frappant. Ce terme quechua, ayllu, est traditionnellement défini comme un groupe de parenté, un lignage ou une communauté autochtone possédant une assise territoriale et s'engageant dans des actions communes, notamment en matière rituelle, mais aussi d'aménagement du terroir. Alors, lorsque l'on regarde en détail l'ethnographie des communautés andines, il est évident qu'un ayllu, c'est beaucoup plus qu'un groupe humain. Il comporte aussi des plantes, des animaux, des esprits du lieu et bien d'autres choses encore. Écoutons ce que dit à ce propos Justo Ocha, qui est un Amérindien de la région de Cusco. Je le cite. Un Ayllus est comme un tissu, et toutes les choses du monde, les gens, les animaux, les montagnes, les plantes, sont comme les fils qui forment les motifs. Les êtres de ce monde ne sont pas seuls. De même qu'un fil tout seul n'est pas un tissu, un humain, il emploie l'expression runa en quechua, est toujours en Ayllu avec d'autres êtres. C'est cela, Ayllu. Autrement dit, dans le clan, dans le lignage, dans le groupe totémique, dans l'Ayllu, il y a toujours beaucoup plus que des hommes, des femmes et des enfants vivants ou morts. Il y a aussi des animaux, il y a des plantes, il y a des territoires, il y a des divinités, il y a des esprits, il y a des sanctuaires, il y a des pathogènes, il y a des images, il y a des savoir-faire et mille autres choses encore nécessaires à la vie. Et ces composantes, elles sont présentes dès l'origine. Elles sont constitutives de l'unité mixte que forment ces segments et non rajoutées après coup comme une sorte de décor suggestif pour le théâtre des actions humaines ou comme de simples pourvoyeurs de métaphores pour mieux exprimer la socialité de ces actions ainsi que les sciences sociales ont eu tendance à les traiter. Et donc l'idée selon laquelle l'unité d'analyse de l'anthropologie est fournie par les seuls humains est un blocage qui a obscurci l'analyse des dimensions proprement politiques de la vie collective, et même au fond si cette configuration intellectuelle anthropocentrée plonge ses racines dans un passé tout à fait estimable, à savoir la lutte contre l'Ancien Régime, la refonte des institutions qui fut à l'époque nécessaire pour s'émanciper des formes sociales révolutionnaire. Car cette refonte dont nos institutions actuelles sont issues, a nécessité une épuration préalable. On a fait sortir les non-humains de la cité pour n'y laisser que les humains, seuls sujets de droit. Et la représentation que les modernes se sont progressivement forgés de leur forme d'association politique, un ensemble d'humains libres et égaux, propriétaires de leur personne, exerçant leur libre arbitre pour se doter d'institutions acceptables par tous, cette représentation a été ensuite implicitement transposée comme le gabarit d'analyse pour les sociétés non modernes, en même temps qu'une myriade de spécificités, à l'instar du partage entre nature et culture, entre croyance et savoir, ou entre faits et valeurs. Et c'est avec cette conception à la fois eurocentrique et anthropocentrique, du politique notamment, qu'il faut pouvoir rompre. Alors que faire? Comment passer d'un monde uniforme, ordonné par une division majeure entre la nature et les cultures, à des mondes diversifiés, dans lesquels humains et non-humains composent une multitude d'assemblages dont on peut néanmoins penser qu'ils répondent à quelques types lesquels sont autant de transformations les uns des autres? Eh bien, il faut d'abord ne pas s'en tenir à la critique de telle ou telle notion du répertoire sociologique et remonter vers un niveau plus profond d'élaboration du monde commun, en l'occurrence au niveau de la détection des régularités dans le monde, lesquelles, lorsqu'elles sont systématisées, ont pour effet de produire des formes de collectif, des conceptions du sujet, des théories de l'action qui sont propres à de larges univers sociaux. Et en procédant de cette manière, le chercheur ne considère plus les sociétés comme des réalités constituées, ainsi qu'il est d'usage dans les sciences sociales, il cherche plutôt à comprendre comment s'instaurent des collectifs singuliers, dont certains, parce qu'ils sont parvenus à destituer les non-humains de leur puissance d'agir politique, se pensent désormais comme des sociétés. Si quelques anthropologues, dont celui qui vous parle, ont placé cette entreprise sous le signe de l'ontologie, c'est un mot qu'on a un peu entendu ce matin déjà, ce n'est aucunement pour revendiquer une annexion par l'anthropologie d'un domaine autrefois réservé à la philosophie. C'est surtout, et plus simplement peut-être, pour insister sur le fait que le niveau où l'analyse anthropologique doit se situer est plus élémentaire que celui où elle a opéré jusqu'à présent. On ne peut pas expliquer le système des différences dans la manière proprement humaine d'habiter le monde en envisageant ces différences comme des produits dérivés de tel ou tel type d'institutions, d'organisations économiques, d'infrastructures techniques, de régimes de valeurs, de vision du monde, bref, de tous ces aspects des collectifs hypostasiés en instance par les sciences sociales afin de mettre en évidence des déterminations. Tous ces aspects me semblent au contraire être les résultats stabilisés d'intuitions plus fondamentales quant à ce que le monde contient et quant aux relations qu'entretiennent ses composantes humaines et non humaines. Et le mot ontologie m'a paru idoine pour désigner ce niveau analytique que l'on pourrait qualifier d'antéprédicatif dans le langage de la phénoménologie, mais qui relève surtout, à mon sens, d'une exigence d'hygiène conceptuelle, à savoir, il faut rechercher les racines de la diversité des humains à un étage plus profond, celui des différences dans les inférences de base qu'ils font en fonction des situations à propos des sortes d'êtres qui peuplent le monde et des façons dont ces êtres se lient. De là découlent les types de collectifs au sein desquels se déroule la vie commune et la nature de leur composition, de là découlent les formes de subjectivation et d'objectivation, de là découlent les régimes de temporalité, les formes de la figuration, de là découle de fait toute la richesse de la vie sociale et culturelle. Alors, une première étape dans ce travail de refondation consiste à mieux définir l'unité d'analyse dont les sciences sociales s'occupent et qu'elles appellent diversement, selon leur domaine de spécialité et selon leurs inflexions nationales, une société, une culture, une communauté, un milieu social, une tribu, un groupe socio-professionnel et bien d'autres termes encore, qui ont tous pour caractéristique de limiter l'ensemble dont on parle aux seuls humains. Je préfère pour ma part le terme de collectif que Bruno Latour a introduit il y a quelques années dans le langage, dans le vocabulaire des sciences sociales, comme un corollaire de la théorie de l'acteur réseau. Il me semble que cette notion de collectif est précieuse, car contrairement à d'autres notions désignant des ensembles organisés d'êtres, elle ne préjuge en aucune façon du contenu de ce qui est associé dans un collectif, ni des modes de l'assemblage. Mais à la différence de Bruno, pour qui le collectif est le produit d'une action littérale de collecte analytique au moyen de laquelle divers types d'êtres et de forces sont associés, moi j'envisage, c'est probablement ma formation d'anthropologue spécialiste des peuples non modernes, j'envisage le collectif plutôt comme la forme sous laquelle se présentent à nous diverses sortes d'associations conventionnelles, d'humains et de non-humains, que l'histoire du monde a su imaginer. Parmi ces associations, il y a bien sûr celles si étranges que l'anthropologie s'est donnée pour mission de décrire, avec un biais anthropocentrique et en prenant la société des humains comme modèle et point de départ de la vie en commun, mais dont il n'est pas impossible pourtant de restituer la richesse et la complexité architecturale. Bref, un collectif au sens où je l'entends, c'est une forme stabilisée d'association entre des êtres qui peuvent être ontologiquement homogènes ou hétérogènes et dont aussi bien les principes de composition que les modes de relation entre les composantes sont spécifiables et susceptibles d'être abordés réflexivement par les membres humains de ces assemblages, notamment lorsqu'il s'agit de qualifier des relations avec des collectifs voisins où ces principes et ces modes n'ont pas cours. On le voit, un collectif entendu en ce sens n'est pas homologue aux catégories sociologiques habituelles désignant des associations auxquelles on aurait rajouté en quelque sorte quelques non-humains par souci louable de complétude. Une société plus sa nature, une ethnie plus ses ancêtres. Il faut plutôt élucider dans chaque cas les principes de composition de l'assemblage et les rapports qu'il entretient avec d'autres assemblages de même nature ou composés différemment. C'est ce que je voudrais faire maintenant à titre d'exemple en examinant très brièvement un genre d'association qui m'a longtemps occupé, le collectif animiste, lequel se distingue en tout de ce qu'est pour nous une société, puisque les combinaisons qu'il opère entre humains et non-humains n'y prennent pas la forme coutumière à laquelle l'ontologie naturaliste nous a accoutumés. Dans une ontologie animiste, la plupart des non-humains ont une intériorité analogue à celle des humains, ce qui fait d'eux des sujets sociaux de plein droit, mais chaque forme d'être étant aussi dotée de dispositions physiques particulières, elle ne peut avoir accès qu'au segment de monde qu'elle est prédisposée par sa nature à habiter, à utiliser et à actualiser. Donc chaque forme d'être constitue, de ce point de vue-là, un collectif à part, une espèce sociale, si vous voulez, caractérisée par une morphologie, des aptitudes et un type de comportement particulier, un genre de regroupement qui combine les attributs d'une espèce naturelle et ceux d'une tribu. Les tribus-espèces, donc, et notamment les tribus-espèces animales, sont réputées vivre dans des collectifs qui possèdent une structure et des propriétés identiques, et ce sont des sociétés complètes avec des chefs, des chamans, des rituels, etc. Dans tout l'archipel animiste, en Amérique subarctique, en Amazonie, en Sibérie, dans des régions d'Asie du Sud-Est et de Mélanésie, les membres de chaque tribu-espèce partagent ainsi une même apparence physique, un même habitat, un même comportement alimentaire et sont en principe endogames. Il importe ici de noter que les critères de différence de forme et de comportement permettant de distinguer les uns des autres les collectifs non humains sont aussi employés pour distinguer entre les divers collectifs humains. Dans une ontologie animiste, en effet, l'idée d'humanité comme espèce morale, en général, à part, n'a guère de sens. Aussi, chaque classe d'humain, qui se différencie des autres par son apparence et par ses manières de faire, est-elle conçue comme une tribu-espèce particulière, à l'instar de la tribu-espèce du singe laineux ou de celle du caribou. Car les attributs distinctifs des groupes humains que les modernes voient comme culturels, la coiffure, la parure, le costume, les armes, les outils, les habitations et même la langue, sont au contraire perçus dans l'archipel animiste comme des dispositions physiques analogues à celles qui permettent aux espèces animales de mener des genres de vie différents, des becs, des griffes, des nageoires, des ailes, des branchies, etc. Donc ce que nous, les naturalistes, voyons comme la nature et la surnature se présentent pour les animistes comme un monde peuplé de collectifs sociaux avec lesquels les collectifs humains eux-mêmes différenciés nouent des relations conformément à des normes supposées communes à tous. Quelle forme une cosmopolitique peut-elle prendre dans le cas présent ? Puisque presque tous les êtres sont des personnes, chacune libre et indépendante à l'intérieur du collectif où son existence se déroule, ce ne sont pas les individus humains qui constituent des sujets politiques, ni même les assemblages au sein desquels chaque espèce d'être humain et non humain est associée, des assemblages, en effet, tous autonomes en principe dans l'exercice de leur souveraineté. Non. Les véritables sujets politiques, ce sont les relations entre les collectifs. Des relations de séduction, d'échange, de prédation, d'apprivoisement qui sont variables selon les circonstances et selon les communautés, mais qui ont toutes pour caractéristique de traiter l'alter ego comme une personne de statut égal. C'est une personne que l'on peut tuer ou que l'on adopte, que l'on mange ou que l'on nourrit, que l'on aide à se reproduire ou que l'on traite comme un enfant, selon qu'il s'agit d'un ami ou d'un ennemi, d'un animal chassé ou d'un petit du gibier que l'on recueille, d'une plante cultivée ou d'une plante sauvage, d'un esprit malfaisant ou d'un esprit protecteur. Et c'est dans ces relations très diverses, de personne à personne, entre humains comme avec les non-humains, que se cristallisent les rapports de monde. Les rapports de monde, ce sont ces rapports qui, selon Jacques Rancière, forment la texture de la politique, beaucoup plus que les rapports de pouvoir, car un sujet politique, ce n'est pas un groupe qui prend conscience de lui-même, qui se donne une voix, qui impose son poids dans la société, pour citer Rancière, c'est un opérateur qui joint et disjoint les régions, les identités, les fonctions, les capacités existant dans la configuration d'une expérience donnée. Et en ce sens, n'importe quel opérateur, humain ou non humain, est capable de devenir un agent politique s'il parvient à mettre ensemble des choses qui n'ont pas au départ de connexion intrinsèque, notamment parce qu'elles ressortissent en apparence à des régimes ontologiques différents. Et donc le chasseur Hatchoir, avec qui j'ai jadis chassé, et qui adresse une incantation mentale à l'âme du singe laineux qu'il poursuit, est un agent politique, car il connecte par ce moyen deux communautés de personnes qui vivent dans des mondes physiques différenciés. Quant au singe laineux, il est devenu lui aussi un agent politique, et pour la même raison, lorsqu'il aura auparavant visité en rêve le même chasseur pour lui donner un rendez-vous en forêt. Partout sur notre planète, ces rapports de monde se donnent à voir sous nos yeux de naturalistes, sans que nous sachions toujours les déchiffrer, comme des expressions politiques. Par exemple, et dans un registre très éloigné de l'animisme, lorsqu'un volcan andin, menacé par une compagnie minière, se voit défendu par des communautés autochtones, non pas comme une ressource à protéger, mais comme un membre à part entière du collectif mixte que les humains forment avec les montagnes, avec les troupeaux de lamas, avec les lacs, avec les champs de pommes de terre, ou encore, pour prendre un autre exemple récent, lorsque les Maoris obtiennent du Parlement néo-zélandais la reconnaissance de la personnalité juridique de la rivière Whanganui, non pas comme un moyen de préserver sur cette rivière leurs droits d'usage ancestraux, mais là encore parce qu'elle appartient à un collectif plus large dont les humains ne sont qu'une composante. Aussi, et pour en revenir au registre animiste, n'est-il pas étonnant que lorsque les représentants de la communauté de Sorayaku sont venus à Paris lors de la COP21 pour demander la reconnaissance du territoire qu'ils occupent en Amazonie équatorienne, ils ne l'aient pas fait en invoquant la préservation de la biodiversité, la protection du milieu contre les compagnies pétrolières, qui sont pourtant à la périphérie, ou même l'autochtonie. Non, ils ont allégué qu'il fallait préserver des relations plutôt qu'un espace. Des relations plutôt qu'un espace. En l'occurrence, et je les cite, « la relation matérielle et spirituelle que les peuples indigènes tissent avec les autres êtres qui habitent la forêt vivante ». Et cette forêt vivante, elle est vue, je cite toujours, comme entièrement composée d'êtres vivants et des relations de communication que ces êtres entretiennent, de sorte que tous ces êtres, depuis la plante la plus infime jusqu'aux esprits protecteurs de la forêt, sont des personnes, runa, qui vivent en communauté et développent leur existence de manière analogue à celle des humains. Au lieu de voir dans ce genre de propos et de mouvements des manifestations de superstitions folkloriques ou puériles, position condescendante que partage tant le libéralisme du laisser-faire qu'une partie de la gauche prométhéenne, il est plus judicieux d'y trouver ce qu'il nous offre, à savoir une formidable stimulation pour penser à nouveaux frais l'action politique et le vivre ensemble dans un monde où nature et société ne sont plus irrémédiablement dissociés.
Le Collège de France et France Culture vous ont présenté dans le cadre du colloque « Les natures en question » la conférence de Philippe Descola « De la nature universelle aux natures singulières, quelles leçons pour l'analyse des cultures ?» Et tout de suite, voici la conférence de Frédéric Keck, Laisser vivre les sentinelles, transformation de la biopolitique par les chasseurs de virus.
Parmi les questions nouvelles concernant la nature ou les natures dans les sociétés contemporaines, il y a celle que soulève l'énoncé suivant. la nature est la plus grande menace bioterroriste. Cet énoncé a circulé dans les années 2000 au sein de la communauté des experts en santé globale pour critiquer l'investissement massif des autorités américaines dans la recherche sur les pathogènes qui pourraient être utilisés comme armes biologiques. Selon ces experts, la plus grande menace pour la santé globale n'était pas l'utilisation de l'anthrax ou de la variole par des terroristes en Afghanistan ou en Irak, mais l'émergence d'un nouveau virus en Afrique centrale ou dans le sud de la Chine. Au cours des 30 dernières années, en effet, l'annonce de l'éradication de la variole par l'Organisation mondiale de la santé a été suivie par l'émergence de nouveaux virus, comme Ebola en 1976, récemment revenu, le VIH-Sida en 1981, devenu depuis pandémique, le virus de grippe aviaire H5N1 en 1997, ou le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, en 2003. Ces nouveaux virus, à la différence de l'anthrax ou de la variole, étaient complètement inconnus dans leurs mécanismes d'émergence comme dans leurs effets, ce qui justifiait la création d'un nouveau domaine de recherche. La journaliste scientifique Madeleine Drexler écrit ainsi en 2002 « Le plus grand bioterroriste est Mère Nature elle-même ». Robert Webster, spécialiste mondial des virus de grippe, écrit en 2003 « Les expériences menées par la nature avec le H5N1 en Asie et le H7N7 en Europe peuvent être la plus grande menace bioterroriste ». Cet énoncé, à travers les formes variables qu'il a prises dans le contexte sécuritaire de la chute de l'Union soviétique et des attaques du 11 septembre 2001, est paradoxal car il semble attribuer des intentions à la nature. Il détourne en effet la peur d'une attaque terroriste vers la peur d'une épidémie, ces deux événements pouvant éclater à n'importe quel moment par des voies imprévisibles, d'où le terme qui leur est commun en anglais « outbreak ». Mais alors que les épidémies résultent de mutations aléatoires des microbes, les attentats terroristes sont intentionnellement orientés par des idéologies. Les virologistes jouent sur la métaphore du terrorisme pour décrire la façon dont les virus détournent, en anglais « hijack », les mécanismes de réplication de la cellule pour se multiplier en faisant exploser leur hôte. Mais ils précisent que les virus n'ont pas d'autre visée que de se reproduire, la mort de leur hôte étant ainsi un effet accidentel qu'il faut expliquer. La métaphore du bioterrorisme traduit ainsi le passage entre deux conceptions de la nature. Une nature régie par des mécanismes connus par des lois de probabilité et une nature conçue comme totalité capable d'agir sur un de ces éléments. L'émergence d'une maladie infectieuse nouvelle est à la fois un événement probable selon les règles de mutation microbiologique et un événement catastrophique lorsqu'il frappe une population non immunisée, comme les Amérindiens lorsque les Européens leur apportèrent la variole. C'est ce passage du risque à la catastrophe que marque la métaphore du bioterrorisme appliquée aux maladies infectieuses émergentes. Du fait de sa signification politique et morale, l'émergence est, pour paraphraser Henri Bergson, un mécanisme de mutation biologique qui se comporte comme s'il avait une intention. Ce basculement dans les conceptions de la nature avait déjà été effectué dans les années 1960 à travers un courant de pensée médicale connu sous le nom d'écologie des maladies infectieuses. Il s'agissait alors de rompre avec les dispositifs de lutte hérités de Pasteur et Koch, faisant du microbe un ennemi de l'humanité issu d'une nature dangereuse, poursuivre les microbes dans leur environnement et tracer les interactions positives et négatives avec les humains. La maladie infectieuse s'explique alors par une rupture de l'équilibre entre les microbes et leurs hôtes dans un écosystème. René Dubos, médecin français, spécialiste des bactéries du sol à l'Institut Rockefeller de New York, pressent que les antibiotiques vont favoriser des bactéries résistantes et qu'il faudra en inventer de nouvelles. Dans un de ses slogans, il est connu également pour avoir inventé le slogan « Penser local, agir global », il dit « La nature contre-attaque, nous devons courir pour rester à la même place ». Frank McFarlane Burnett, fondateur de l'école australienne d'immunologie, s'inquiète des déplacements de populations et des espèces invasives. Il écrit dans son « Histoire naturelle des maladies infectieuses », et Bruno Latour a rappelé cette grande tradition de l'histoire naturelle, « La nature a toujours semblé travailler pour un état d'équilibre, un écosystème provisoirement stable, atteint par des forces naturelles, et lorsque nous cherchons à remodeler un tel écosystème, nous devons nous rappeler que la nature travaille contre nous. Du point de vue des microbes, l'humanité n'est pas une fin de l'évolution, mais un goulet d'étranglement, en anglais bottleneck, voire un cul-de-sac, dead end, où les relations entre hôtes et microbes deviennent imprévisibles, particulièrement si les possibilités de mutation se multiplient du fait de contacts plus fréquents entre les humains et les autres animaux. Si ces énoncés nous semblent paradoxaux, c'est que nous ne pouvons pas penser que la nature soit à la fois un ensemble de mutations probables et une série d'événements catastrophiques. Nous suivons des techniques de pouvoir que Michel Foucault qualifie de pastorales lorsque nous raisonnons sur la santé en considérant les vivants comme des populations d'individus singuliers qui se gouvernent et se régulent sur un territoire. Mais les microbiologistes pensent et agissent davantage comme des chasseurs lorsqu'ils prennent alternativement le point de vue du microbe et de son hôte pour décrire leurs relations dans un environnement global perturbé. Je voudrais décrire ici cette transformation de ce que Foucault a appelé biopolitique par ce qu'on qualifie, depuis un livre fameux de Paul de Cruyff en 1926, les chasseurs de microbes. Les contradictions apparentes dans leur discours sur la nature cessent de choquer si l'on observe les dispositifs et les pratiques par lesquels les microbiologistes surveillent les animaux pour y dépister de nouveaux microbes. Dans un article publié en 2004 par Anthropology Today, Stephen Collier, Andrew Lakoff et Paul Rabineau s'interrogent sur la formation d'un nouveau mode de gestion des risques qu'ils décrivent sous le nom de biosécurité. Ce terme s'applique au matériel biologique qui circule globalement et dont la transcription sous forme génétique permet d'anticiper les mutations. Les normes de biosécurité, selon l'analyse de Stephen Hinchliffe et Nick Bingham, visent à réguler la circulation de ce matériel biologique pour éviter des événements catastrophiques, comme l'usage d'armes biologiques, l'arrivée d'espèces invasives sur un territoire vierge ou l'émergence d'un nouveau pathogène dans une population non immunisée. Ces normes sont identiques, que l'événement anticipé soit intentionnel ou non. Il s'agit dans tous les cas de se préparer à une catastrophe pour en limiter les dégâts, sans s'interroger sur les causes de la catastrophe elle-même. Cet impératif de préparation, en anglais « preparedness », demande aux gestionnaires de risque d'imaginer que la catastrophe a eu lieu pour atténuer les vulnérabilités qu'elle rend visibles dans les infrastructures. Ainsi, les plans de préparation aux pandémies obligent à stocker des doses de vaccins pour maintenir les administrations, les hôpitaux, les écoles en cas de pandémie. Ils prévoient également des exercices de simulation de la pandémie pour que les différents services concernés apprennent à se coordonner en situation d'urgence. Ces techniques, selon l'analyse de Collier et Lakoff, furent inventées au début de la guerre froide pour préparer les populations à une explosion nucléaire, puis transférées à la fin de la guerre froide vers les catastrophes naturelles, les épidémies nouvelles ou les attaques terroristes. Une de ces techniques de préparation consiste à placer des capteurs de signaux d'alerte précoces d'une catastrophe que l'on appelle des sentinelles. La notion de sentinelle a connu un large usage dans la lutte contre le terrorisme, où elle désigne des soldats qui se mêlent à la population pour détecter l'ennemi malgré son caractère invisible. Mais il prend un sens plus large dans le domaine des maladies infectieuses émergentes, où il qualifie trois types d'êtres sur des échelles différentes. Il y a d'abord des cellules sentinelles, qui sont les premières à se porter au contact d'un microbe inconnu pour en capter l'information antigénique et la transmettre aux autres cellules du système immunitaire. Ces cellules en forme de synapses sont particulièrement sensibles à la nouveauté de l'information biologique rencontrée par l'organisme. On explique le caractère hautement pathogène des virus émergents par le fait qu'ils parviennent à leurrer ces premiers niveaux de signalisation pour se porter vers des cellules plus rudimentaires qui déclenchent alors des paniques immunitaires appelées tempêtes de cytokines, détruisant ainsi l'organisme hôte dans lequel le virus cherche à se répliquer. Ces mécanismes de leurre, riches en métaphores synergétiques, permettent de décrire comment un système immunitaire naturel agit sur l'une de ses composantes à partir de seuils catastrophiques. Il y a ensuite des territoires et des populations sentinelles dans lesquels une épidémie nouvelle se déclenche avant de se propager au reste du monde. Ainsi, le travail mené par les virologistes sur les virus à fièvre hémorragique, comme Ebola ou Lassa, ou sur les virus d'immunodéficience acquise chez les singes en Afrique équatoriale, vise à identifier des lieux, en anglais « hotspots », où de nouvelles maladies apparaissent avant qu'elles ne deviennent pandémiques, puisque ces virus sont proches chez les singes et chez les humains. De même, le sud de la Chine a été décrit comme un des épicentres des pandémies de grippe, du fait de la proximité entre oiseaux aquatiques, porcs et humains, puisque les oiseaux constituent le réservoir animal pour les mutations de virus de grippe qui passent par les porcs pour s'adapter à l'organisme humain. Entre ces deux niveaux, immunologique et politique, où circule la notion de sentinelle, il y a un niveau intermédiaire que je qualifierais d'ethnographique, car il permet d'observer des relations entre humains et animaux pour décrire comment elles sont transformées par l'anticipation des maladies infectieuses émergentes. Dans les fermes de Hong Kong, des volailles non vaccinées sont placées à l'entrée des rangées de cages appelées sentinelles, en chinois Shao Bingji, qui signifie littéralement poulet sifflant comme des soldats. Cet usage de poulet sentinelle est le seul à ma connaissance pour la grippe aviaire, mais il est fréquent pour d'autres maladies, comme l'encéphalite de la vallée de Murray en Australie, où des poulets sont placés dans des cages pour détecter la présence de moustiques susceptibles de transmettre une maladie mortelle aux humains. Le gouvernement de Hong Kong a imposé la vaccination des volailles dans la trentaine de fermes qui restent sur le territoire après avoir tenté de mettre fin à cette filière. Les citoyens de Hong Kong sont restés attachés aux races locales élevées dans ces fermes et sont prêts à payer le double du prix de volailles importées de Chine continentale. La norme prescrite dans ces fermes est d'avoir 60 sentinelles pour un bâtiment contenant 3500 poulets d'élevage, et la ferme où j'ai travaillé, qui contenait 70 000 poulets, fut infectée en décembre 2008 par le virus H5N1. L'alerte fut lancée lorsqu'une centaine de poulets sentinelles moururent avec un taux de mortalité de 83%. Des volailles vaccinées moururent également, mais avec un taux de mortalité de 7%. L'usage pour les poulets non vaccinés est de ne pas les vendre sur les marchés, même s'ils sont parfois destinés à une consommation locale. Ces poulets sont donc littéralement en première ligne de l'exposition de la ferme au virus, là où sont appliquées d'autres mesures de biosécurité. Dans le rapport qui fut établi par l'administration en charge de l'agriculture au gouvernement de Hong Kong après le cas de H5N1 de décembre 2008, deux explications furent données pour l'infection de cette ferme. Ce rapport, blâmant un manque de biosécurité dans le premier cas, un excès de biosécurité dans le second, posait une question qui déborde largement le cadre de la grippe aviaire. Comment vivre à bonne distance avec les sentinelles? Quelles relations peuvent être nouées entre les vivants et ces capteurs posés en première ligne de l'exposition à une menace? Si les virus émergents franchissent les frontières entre les espèces, les poulets sentinelles sont dans une position intermédiaire entre les humains, non vaccinés pour une maladie qui n'est pas encore passée à l'homme, et les autres poulets, vaccinés pour une maladie endémique chez les volailles. Et puisque la vaccination est aujourd'hui une des marques de la domestication, un poulet non vacciné est plus proche d'un oiseau sauvage exposé aux mutations du virus dangereux. Ce brouillage des frontières entre le sauvage et le domestique peut être observé à partir d'un autre cas de sentinelle. En mai 2007, les virologistes de l'Université de Hong Kong tinrent une conférence de presse commune avec l'Association des observateurs d'oiseaux de Hong Kong pour montrer la diffusion du virus H5N1 depuis le marché aux oiseaux, situé en plein cœur du quartier le plus peuplé du territoire, Mongkok, d'où était partie l'épidémie de SRAS 4 ans plus tôt. Il s'agissait pour les observateurs d'oiseaux de critiquer les mesures prises par le gouvernement lorsqu'un oiseau sauvage était découvert porteur du virus H5N1. Selon les observateurs d'oiseaux et leurs alliés virologistes, le risque de transmission de la grippe aviaire était très faible dans les réserves naturelles où les hommes se tenaient à distance des oiseaux et plus élevé dans les marchés aux oiseaux où les interactions étaient plus fortes. Les observateurs d'oiseaux mettaient notamment en cause une pratique traditionnelle encadrée par des moines bouddhistes visant à relâcher des oiseaux achetés sur les marchés dans des parcs naturels adjacents. Des enquêtes montraient que ces oiseaux mouraient souvent du fait d'être enfermés dans des cages et relâchés dans des environnements inappropriés. La controverse porte donc sur ce qui peut être qualifié de sentinelle dans un contexte de menace de grippe aviaire pandémique. Selon les bouddhistes, les oiseaux relâchés étaient des sentinelles pour la souffrance produite dans les marchés, et selon les birdwatchers, ces oiseaux étaient plutôt des sentinelles pour le commerce international des oiseaux d'ornement, qui transportent des oiseaux sur des milliers de kilomètres, et conduit soit à leur mort dans un environnement inapproprié, soit à la diffusion d'espèces invasives. Ce désaccord ontologique menait à une discussion pratique sur ce qu'implique libérer les oiseaux. Une sentinelle n'est donc pas seulement une espèce animale exposée à une menace qui affecte les humains. Elle doit être équipée pour envoyer des signaux d'alerte par lesquels les humains communiquent avec elle. Un livret de prières religieuses ou d'informations naturalistes qui encadre le lâcher. Un prix sur un marché ou une antenne satellite qui permet d'en mesurer les effets. Il ne s'agit donc pas d'opposer conceptions scientifiques et religieuses en contrastant les âmes des bouddhistes avec les virus des birdwatchers, même si tous deux sont invisibles et apparaissent dans des situations catastrophiques impliquant des hommes et des oiseaux. Bouddhistes et birdwatchers combinent différemment des pratiques de chasse et des pratiques pastorales, puisqu'ils doivent extraire d'une population d'oiseaux des spécimens considérés comme des sentinelles qu'ils relâchent dans un environnement plus large et avec lesquels ils instaurent des relations à distance dans un espace virtuel. L'alliance des virologistes avec les birdwatchers leur permet de construire cet espace virtuel en simulant des écosystèmes perturbés sur des bases de données. Bouddhistes et birdwatchers préparent les humains aux pandémies en construisant avec les oiseaux des sentinelles consistantes, mais les birdwatchers s'appuient sur des simulations plus denses, puisqu'elles relient les différentes espèces animales par des mutations virales de proche en proche. Les bouddhistes adoptent des pratiques plus pastorales, puisqu'ils mettent au centre de leurs préoccupations le soin des populations, alors que birdwatchers et virologistes sont plus proches des pratiques de chasse, puisqu'ils se soucient davantage de la collecte des données sur les oiseaux. Mais tous ces groupes peuvent négocier à partir d'un problème commun qui est celui de la sentinelle. J'arrive à ma conclusion. Michel Foucault définissait la biopolitique comme le passage du pouvoir de faire mourir et laisser vivre, caractéristique selon lui du pouvoir souverain au XVIIIe siècle, au pouvoir de faire vivre et laisser mourir. Les commentateurs de Foucault ont souligné que la gestion des menaces pandémiques combine un faire vivre, notamment par des campagnes de vaccination ou des exercices de simulation, un laisser-mourir pour des populations atteintes de maladies négligées ne suscitant pas de mobilisation globale, et un faire-mourir par le retour à la quarantaine des voyageurs ou à l'abattage massif d'animaux malades. Mais ils ont peu interrogé ce que signifie laisser-vivre. C'est pourtant une question centrale pour les naturalistes lorsqu'ils doivent relâcher des animaux sauvages après les avoir provisoirement intégrés dans une communauté de soins. Il se pourrait que cette case vide dans la formule de Foucault indique des pratiques de chasse d'animaux sauvages ou de cueillette des végétaux qui sont restées à l'écart de sa généalogie des techniques de pouvoir. Cette hypothèse est d'autant plus tentante que Foucault formule une généalogie du pouvoir pastoral sans jamais faire référence aux travaux d'André-Georges Audricourt qui met en contraste au même moment le pouvoir pastoral avec d'autres formes de relations à la nature et à autrui dans les sociétés d'Asie et du Pacifique. Je fais référence à son article fameux « Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui » paru dans l'Homme en 1962. Alors que Foucault définit le pouvoir comme une action sur des actions, l'expression « laisser vivre » permet d'étudier ce qu'Audricourt a appelé « des actions indirectes négatives dans des contextes non occidentaux ». Laisser vivre des animaux peut ainsi être décrit comme une façon de faire parler ces animaux ou de communiquer avec eux à distance. Dans son grand livre « Rules of Experts », Tim Mitchell demande « Les moustiques peuvent-ils parler ?» Il interroge ainsi la façon dont la technocratie moderniste en Égypte doit composer avec les moustiques anopheles, porteurs du paludisme, pour construire des projets d'aménagement du Nil. C'est une question centrale en anthropologie de la nature de déterminer dans quelle mesure les animaux atteints de maladies infectieuses qu'ils partagent avec les humains, qu'on appelle zoonoses, comme l'encéphalopathie spongiforme bovine ou vache folle, qui a frappé l'Europe dans les années 1990, peuvent être considérés comme des sujets de droit dans une communauté élargie. Souvent, un tel élargissement est proposé par un recours à la fiction, littéraire ou juridique. J'ai voulu montrer que la notion de sentinelle commune au combat contre le terrorisme et à la lutte contre les maladies infectieuses émergentes permet de penser un tel élargissement en restant à l'intérieur des pratiques de simulation qui constituent l'imaginaire des virologistes. En visualisant les mutations parfois catastrophiques des microbes à travers leur information génétique, les virologistes perçoivent des signaux d'alerte au plus près des populations animales. Les frontières qui démarquent ces populations, humains, non-humains, sauvages, domestiques, sont des discontinuités que franchissent les mutations continues des pathogènes, rendant possible leur anticipation par des sentinelles. En laissant vivre ces sentinelles, les virologistes en font des opérateurs de communication par-delà les frontières. Dans la leçon de sagesse des vaches folles, Claude Lévi-Strauss interroge l'expression « vache cannibale » qui avait été lancée dans l'opinion publique pour décrire les vaches atteintes d'encéphalopathie spongiforme du fait de leur consommation de farines animales. Loin d'être dénaturées, ces vaches atteindraient, selon lui, le plus haut degré de perfection que comporte la nature animale, puisqu'elles partageraient avec les humains, je cite toujours, « la principale surveillance des sources d'énergie et des machines ». C'est un article paru dans La Repubblica en 1997 et récemment réédité dans le collectif « Nous sommes tous des cannibales ». Afin de répondre aux préoccupations croissantes pour le bien-être animal, Lévi-Strauss propose que les autres vaches soient libérées pour être chassées et mangées avec le même respect que celui que les cannibales expriment envers leurs ancêtres ou leurs ennemis. Lévi-Strauss distingue ainsi deux types de sentinelles, l'une domestique, consacrée à la surveillance, et l'autre sauvage, fournissant de la viande. Les deux figures de sentinelles que j'ai étudiées à Hong Kong inversent celles que propose Lévi-Strauss, mais elles retrouvent son interrogation sur ce que la libération des animaux révèle des pratiques des chasseurs dans les sociétés pastorales. Lévi-Strauss a en effet suivi de près les travaux du virologiste Carlton Gajduzek sur la transmission du courroux par les pratiques cannibales en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mon ethnographie des sentinelles reprend ainsi une proposition apparemment étrange de l'anthropologue au contact d'un chasseur de virus pour étudier une forme d'action et de communication qui s'invente dans les nouvelles relations entre vivants par la globalisation des menaces écologiques, sanitaires et sécuritaires.
C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter le colloque « Les natures en question », la conférence de Frédéric Keck, « Laisser vivre les sentinelles, transformation de la biopolitique par les chasseurs de virus ». Et en première partie, vous avez pu entendre celle de Philippe Descola, « De la nature universelle aux natures singulières, quelles leçons pour l'analyse des cultures ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations, les vidéos et la bibliographie liées à cette diffusion. Les actes du colloque « Les natures en question » sous la direction de Philippe Descola viennent d'être publiés chez Odile Jacob. Iconographie web Claire Poinsignon, réalisation Laure-Hélène Plancher, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nouveau volet du colloque en compagnie d'Alain Prochian qui s'interrogera sur notre cortex monstrueux et ce qui nous différencie des chimpanzés, tandis que Justin Smith mettra en perspective le naturel et l'inné. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.